Arnaud Laster est vraiment un des meilleurs connaisseurs de Victor Hugo, de sa vie et de son œuvre, et il présente en outre cette spécificité, je dirais, de très bien connaître ce que beaucoup d'autres hugoliens ne connaissent pas parmi nous. Bon, bien sûr, le théâtre de Victor Hugo, mais aussi toute la question des adaptations cinématographiques, comme vous avez pu vous en rendre compte hier soir, et les rapports de Victor Hugo avec la musique. Voilà, je lui laisse la parole.
Merci. Le présent colloque, ayant pris pour sujet les fortunes diverses de l'œuvre de Hugo, il m'a semblé opportun de traiter du phénomène de l'opéra. Non seulement parce que le nombre d'opéras inspirés de l'œuvre de Hugo dépasse la centaine, mais parce que le théâtre de Hugo, Naoki Inagaki me l'a dit, est absent des scènes au Japon, alors que l'on y connaît très bien Rigoletto, joué encore très récemment, et il a pu m'en retrouver les dates précises, les 25 et 26 septembre dernier, au Civic Hall de Tokyo, et que l'on vient de donner Hernani à Kyoto, à Shiga, les 26 et 27 octobre, au Biwako Hall. Partout dans le monde, Rigoletto est au répertoire. Hernani, assez souvent. Et aussi, Lucrezia Borgia de Donizetti. Trois opéras qui, du vivant de Hugo, étaient déjà les plus joués. Or, la diffusion internationale des pièces originales est bien moindre. Certes, le théâtre, à l'exception peut-être de celui de Shakespeare, s'exporte moins que l'opéra. Mais en France même, Rigoletto est beaucoup plus fréquemment à l'affiche que Le Roi s'amuse. Si l'on estime, contrairement à l'idée reçue, que le drame est au moins égal à sa traduction lyrique, on se dit que Hugo avait peut-être raison de s'alarmer de la concurrence. Je voudrais donc vous inviter à reconsidérer, du point de vue de Hugo et de ses contemporains, la question de la transposition de ses œuvres à l'opéra. Y a-t-il gagné ou perdu? Le concours qu'il apporta lui-même à un des tout premiers opéras adapté d'une de ses œuvres, mérite d'être rappelé. Ne serait-ce que pour écarter l'idée d'un refus systématique de l'opéra et des adaptations. Dès 1831, l'année même où paraît le roman, il entreprit de tirer de Notre-Dame de Paris un livret pour la musicienne Louise Bertin. Il savait que dans un opéra, l'honneur du succès revient au compositeur et non au poète. Mais le scénario primitif de la Esmeralda témoigne d'une grande ambition. Peut-être rêvait-il, après la bataille victorieuse d'Hernani à la Comédie-Française, temple du classicisme, d'une autre à l'opéra, considéré comme le premier théâtre de la nation. Le mode de composition de Louise Bertin le confirma dans l'idée du rôle subalterne du librettiste. Il n'obtint ni une Esmeralda capable de chanter et de danser, ni la descente de la cathédrale dans les dessous, pour donner aux spectateurs l'illusion de l'ascension de Quasimodo enlevant la Esmeralda d'étage en étage. La censure rabota une des audaces du livret en interdisant de faire sur scène de Frollo un prêtre. Mais il en resta assez pour scandaliser le public de l'Académie royale de musique, entraîner, je cite un article de l'époque, des orgies de truands à un coupe-gorge en passant par un pilori. La Esmeralda ne fut représentée que 5 fois intégralement en 1836. Créé 3 ans plus tôt à Milan, Lucrezia Borgia de Donizetti, adaptation du drame de Hugo par Felice Romani, après Londres en 1839, arriva en 1840 à Paris, au théâtre italien. Jamais drame, écrit Gautier, ne fut plus merveilleusement coupé pour la musique que celui de Lucrèce. Aussi l'arrangeur n'a-t-il pas eu grand-chose à faire, et dans beaucoup d'endroits s'est-il contenté de mettre en méchant vers de livret l'admirable prose du poète. Le sujet amenait si invinciblement la musique que le dénouement de la pièce doit ses principaux effets de terreur au contraste des chants de fête et des litanies funèbres des moines. Le souper chez la princesse Negroni est une des plus belles situations lyriques qui se puissent voir et revenait de droit à l'opéra. Voilà donc ce qu'écrivait Théophile Gautier. Telle n'était pas l'opinion de Hugo, qui dans une conversation de 1854 rapportée par sa fille Adèle, déclarera « La musique ne doit être employée dans le drame que comme je l'ai employée moi-même dans Lucrèce Borgia. Alors, elle fait le plus grand effet, surtout lorsque le plein chant des moines et la chanson à boire de Maffio se détache sur les paroles. Lorsque Donizetti a fait un opéra de Lucrèce Borgia, l'effet du plein chant s'est trouvé tellement annulé par la continuité de la musique qu'on a rétracté les moines et qu'on a été obligé de les remplacer par des soldats. L'autorisation n'ayant pas été demandée à Hugo, il obtint en 1841 du théâtre italien la suspension des représentations. Et lorsque l'on publia, malgré son refus, comme, je cite, « paroles imitées de l'italien », un texte français adapté à la musique, et qu'un directeur de théâtre de province donna cette version, il porta plainte pour contrefaçon. Le canevas emprunté à M. Victor Hugo, déclara Maître Hennequin, avocat d'Étienne Meunier, auteur des « Paroles françaises », se perd comme un accessoire sans valeur dans la production nouvelle, qui ne doit qu'à elle-même son existence et sa fortune. Présentant comme subalterne le rôle du livret dans la composition et dans le succès de l'opéra, il ajouta « Personne n'écoute les paroles. Les écouter, à quoi bon ? Connaissez-vous beaucoup de chanteurs qui articulent assez nettement pour que l'on entende les mots qu'ils prononcent ?» Il n'épargna pas le livret. Œuvre personnelle de Romani, distincte du drame de Hugo. Voici comment l'avocat de l'auteur des paroles françaises définissait ce livret. Séparé de la musique, le livret de Lucrezia Borgia est injouable et illisible parce qu'il est informe. Une fable privée de tout développement, des scènes mutilées, des figures sans physionomie, sans caractère, ne constitue pas une pièce viable. Les personnages nuancés, contrastés, mis en relief par le style varié, éclatant, énergique de M. Victor Hugo, ne sont plus dans les mains de Romani que de mesquines et confuses silhouettes. Qui reconnaîtra, par exemple, Alphonse d'Este, ce prince accompli selon Machiavel, dans le vulgaire jaloux, le tyran de mélodrame ébauché par le livret? Ne cherchez pas les effets dramatiques de la pièce française. Le plus important, le dénouement, a disparu. Dans le drame, Lucrèce Borgia est poignardée par Gennaro, son fils. C'est moi qui ajoute la précision. Le librettiste italien, qui n'aime pas le sang versé, épargne au contraire les jours de Lucrèce. C'est ainsi que la plupart des situations du drame ont été ou supprimées ou modifiées, adoucies. Cette dépréciation, destinée à prouver que Donizetti, je cite, « de rien » a fait quelque chose, n'était-elle pas susceptible de conforter Hugo dans l'idée que son drame était aplati, tronqué, édulcoré par le livret? Le dernier mouvement de la plaidoirie de Maître Hennequin ne pouvait qu'achever de l'en convaincre. L'avocat y rappelle que la peinture exacte des mœurs licencieuses de l'Italie du XVIe siècle a soulevé, je cite, « même en France, de nombreuses réclamations » et que le drame a été interdit en Italie, en Autriche, en Prusse. Alors que dans tous ces pays, l'opéra se joue librement. Mais l'avocat use aussi d'une autre stratégie. Il s'étonne de voir un poète tenir à offense qu'on le traite à l'égal de Racine, de Molière, de Beaumarchais, de Voltaire. Iphigénie en Eulide, Don Juan, les noces de Figaro, le barbier de Séville, n'ont rien perdu ni de leur mérite, ni de leur renommée, pour avoir eu l'honneur d'inspirer Gluck, Mozart et Rossini. Bref, l'opéra ne doit son succès ni au drame, ni au livret, mais le dramaturge devrait être honoré d'avoir inspiré le musicien. Je cite encore l'avocat, « Donizetti n'est pas un usurpateur de votre bien, c'est un témoin de vos succès, un disciple formé à votre école. Et c'est vous qui l'accusez. Comprenez-vous, messieurs, un novateur révolté contre sa fortune. » Et voilà le livret, l'opéra, Donizetti même, considéré comme autant d'enfants dont Hugo aurait lieu d'être fier. Un célèbre avocat de l'époque, Maître Berrière, appelé en renfort, va d'ailleurs en rajouter dans ce sens en apostrophant Hugo. « On ne vous a pas dépouillé, on vous a enrichi, on a étendu votre gloire, on lui a rendu un éclatant hommage. Donizetti a entendu votre drame et son âme a été profondément émue de ses étonnantes péripéties, des magnificences de votre style. » Il s'est écrié alors, « Vous êtes grand, mais mon art ne l'est pas moins. Je vous suivrai dans toute votre création, d'acte en acte, d'événement en événement, de scène en scène, et je serai votre égal. La musique luttera avec la poésie. » L'avocat principal, Maître Hennequin, renchérit encore sur son confrère. Non seulement Donizetti ne fait aucun tort, je cite à Hugo, mais au contraire, il se peut, lance-t-il au poète, qu'il vous rende service. Comment? En maintenant au répertoire l'œuvre qui l'a inspiré. Le barbier de Séville de Beaumarchais, dit-il, doit à Rossini d'avoir survécu. Hugo répond directement à ses assertions. En attribuant la disgrâce qui frappe alors la pièce, non, à l'esprit de parti que l'avocat incriminait chez Beaumarchais, mais à la vogue de l'opéra. Je cite Hugo, « Le Barbier de Séville est un chef-d'œuvre d'esprit, de conduite et de style, et à coup sûr l'une des meilleures comédies du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le Barbier de Séville sans musique n'attirerait personne. Et pour le donner deux ou trois fois par an, la Comédie française a besoin de se rappeler qu'elle est par devoir conservatrice de l'ancien répertoire. Voilà ce qui est arrivé à une comédie excellente qui a subi l'honneur dont on parlait tout à l'heure, la bonne fortune d'inspirer un musicien, la gloire de devenir un libretto. Eh bien non, je vous le dis tout net et hautement, il n'y a aucune gloire pour Beaumarchais à avoir disparu sous Rossini. En appel, comme en première instance, le jugement fut favorable à Hugo. L'opéra ayant emprunté au drame, je cite les termes du jugement, « toutes les situations et jusqu'au titre et au personnage, sans en excepter, sans en ajouter un seul, la Cour royale de Paris admit que la gloire littéraire et l'intérêt matériel de l'auteur du drame imité pourraient avoir beaucoup à souffrir de la banalité et de la concurrence. » Jugement de portée strictement nationale qui ne dissuada pas Verdi ni son librettiste Piave de faire d'Hernani un opéra, créé à Venise en 1844. La France musicale, hebdomadaire des frères Escudier, éditeur français de Verdi, annonce que selon toute probabilité, on donnera dès l'hiver prochain au théâtre italien Hernani du maestro Verdi et la reprise de Lucrezia Borgia. Et ils ajoutent, ce n'est pas M. Hugo personnellement qui a mis l'interdit sur ces deux pièces, mais une société de banquiers propriétaire d'une partie des droits d'auteur qui en découle. Des négociations ont été entamées à ce sujet et il y a tout lieu d'espérer qu'elles auront le résultat désiré. De ces négociations, il reste une lettre inédite des frères Escudier à Hugo, datée d'un 21 novembre, vraisemblablement de 1844. On peut y lire, après confirmation, que la direction du théâtre italien ne peut faire représenter Hernani sans son autorisation, ceci. Vous nous aviez donné quelque espérance, et puis tout s'est évanoui. Vous avez vu dans l'exécution d'Hernani une atteinte portée à votre dignité littéraire, dont à juste titre, vous devez être fier et jaloux. Mais ne vous êtes-vous pas exagéré un peu le résultat que pourrait avoir pour vos œuvres et votre réputation la représentation de cet opéra sur le théâtre des Bouffes? Certes, vous n'avez pas dans le monde littéraire et dans tous les mondes possibles des admirateurs plus ardents et plus sincères que nous. Et si nous avions pensé un seul instant que cette imitation d'Hernani pourrait ternir du plus léger nuage votre glorieuse réputation littéraire, nous aurions déchiré la musique de Verdi et jamais ne nous vous aurions parlé de cette pièce. La direction des Bouffes, ajoute les Escudiers, est disposée à faire à l'égard de vos banquiers ce qu'ils pourront désirer. Et il lui adresse un exemplaire du livret italien afin, je cite, qu'il puisse se convaincre qu'il y a aussi loin de la pièce italienne à son chef-d'œuvre que de la terre au ciel. En attendant Hernani, le théâtre italien affiche la Rinnegata. L'opposition du poète aux représentations de Lucrezia Borgia a eu pour effet pervers de susciter un livret de remplacement qui en a changé le titre, les personnages, la localisation. Dans la presse du 20 janvier 1845, Gautier regrette l'ancien livret, qui, je cite, avait au moins l'avantage d'éveiller le souvenir de la pièce de M. Victor Hugo. Et il s'adresse au poète. Permettez ici aux plus humbles et aux plus dévoués de vos disciples de vous le dire. C'est un glorieux privilège que d'être ainsi la source où vont puiser tous les arts. Il est beau que dans cette Italie de Virgile, de Dante, il ne puisse pas se brocher un livret sans vos chefs-d'œuvre, ni là, ni ailleurs. Vous servez d'imagination à ces peuples qui en ont eu tant. Quel plus bel éloge! Le musicien qui veut réussir demande qu'on lui réduise aux proportions du drame lyrique un de ces personnages à qui vous avez donné la vie. Cela vous amoindrait-il en rien? Gautier, fidèle entre tous à Hugo, joint donc sa voix à celle des défenseurs des opéras inspirés du poète. Le théâtre italien va monter Hernani, mais la France musicale annonce qu'afin d'éviter toutes les contestations avec l'auteur du drame, il a été fait un libretto nouveau, des plus dramatiques. Pas une note n'a été enlevée ni changée dans la musique. Début novembre, donc, on annonce Il proscritto ou Il corsario di Venezia, proscrit ou le corsaire de Venise, musique d'Hernani de Verdi, est en répétition. L'administration a dans cet opéra une mine d'or. Le 16, nouvel écho. Il proscritto, entre parenthèses, Hernani, ne sera pas joué seulement à Paris cet hiver. Traduit en français, le proscrit est dans ce moment en répétition sur plusieurs théâtres, entre autres ceux de Bruxelles, de Gand et de Marseille. Cette pièce est destinée à faire la fortune de tous les directeurs qui la mettront en scène. Le 23 paraît une publicité pour la musique d'Hernani de G. Verdi, Le proscrit ou le corsaire de Venise, poème de Messieurs Escudier, partition française et en quatre actes. Que peut donc penser Hugo de cet avatar de son drame? Est-ce de lui qu'il fait la fortune? Le théâtre italien de Paris présente le 6 janvier 1846 Il proscritto. Hernani est devenu Oldrado, corsaire, Don Carlos, le sénateur Andrea Ricci, Donia Sol, changé en Elvire par Piave, le librettiste de Verdi, garde ce nom, mais au lieu d'être fiancée à son oncle, Don Ruy Gomez de Silva, elle est la fille du patricien Zeno. La revue et gazette musicale signale le caprice étrange d'un grand poète qui veut bien qu'on le joue, mais qui ne veut pas qu'on le chante. Dans l'origine, Il proscritto, c'était Hernani, ce chef-d'œuvre tragique et bouffon, dont le héros jure de se tuer, et se tue en effet au son du cor. Fut-il jamais sujet plus musical? Et comment M. Victor Hugo n'a-t-il pas compris qu'on ne lui faisait aucun tort, en restituant à son œuvre la forme qui lui appartient naturellement, la forme lyrique? D'ailleurs, quel tort la musique a-t-elle jamais fait à la poésie ou à la prose? Que l'on exige sa part d'auteur dans les bénéfices de l'œuvre transformée, nous le concevons encore. Mais qu'on oppose à toute transformation un veto souverain absolu, cela ne nous paraît justifiable au point de vue d'aucun intérêt, sinon celui d'un orgueil qui aime à se retirer sur les hauts lieux et à se perdre dans les nuages. Après Berlin, l'opéra de Verdi parvient en 1846 à Constantinople, à Saint-Pétersbourg, en 1847 à La Havane, Santiago du Chili, New York, Odessa, en 1848 à Stockholm, en 1849 à Buenos Aires, en 1850 à Mexico, en 1851 à San Francisco. Lors de la reprise d'avril 1851 à Paris, le théâtre italien affiche Hernani et non plus Il proscritto. La revue et gazette musicale en prend note. Aujourd'hui, que le poète a renoncé au Liberum Veto dont il avait frappé aussi Lucrezia Borgia, Hernani nous est revenu, visière levée et ne cachant plus sa race ni son pays. Est-ce là l'effet d'une intervention des frères Escudier, à laquelle fait allusion un article de Léon, l'un des deux frères, dans la France musicale du 4 janvier 1857. Lorsqu'il s'est agi de jouer Hernani ou Lucrezia, c'est sur notre demande personnelle que M. Hugo consentit, non sans résistance, à laisser représenter ses ouvrages. Il fut convenu qu'on lui paierait des droits de 10% sur la recette. Le ménestrel essaie en cette occurrence d'opposer la fortune de Hugo à l'infortune de Verdi. Il est bon de dire que le père d'Hernani, cela à la faveur d'un libretto insignifiant, pendant que le perçoit 14%, ils en rajoutent un peu, sur chaque représentation de l'œuvre de Verdi, pendant que le maestro Verdi ne touche pas un centime de droit d'auteur en France pour une de ses partitions les plus estimées, les plus populaires, singulière anomalie. L'anomalie sera corrigée, mais l'alignement se fera par le bas. Puisque le droit, probablement de 10% et non de 14%, cessera d'être versé à Hugo au lieu d'être étendu à Verdi. Mais entre-temps, Louis-Napoléon Bonaparte a fait son coup d'État. Hugo, qui l'a combattu, a été proscrit. Son théâtre interdit sur les scènes françaises. D'où peut-être un raidissement de l'exilé vis-à-vis du théâtre devenu théâtre impérial italien, dont nous informe le Ménestrel en 1853. Monsieur Victor Hugo a probablement mis une seconde fois son veto sur Hernani, car après en avoir annoncé la reprise, la direction des Italiens a été obligée de faire relâche. La revue et gazette musicale du même jour insinue que la permission serait peut-être accordée, mais il faudrait payer un droit assez fort pour l'obtenir. Mieux vaut donc s'en passer. Et voilà le seigneur Hernani, ses Déruchette, transformé en Oldrado. Une semaine plus tard, un écho de la France musicale, s'il est venu aux oreilles de Hugo, a dû y sonner amèrement. Je cite. « L'empereur assistait mardi dernier à la représentation d'Hernani, dont les nombreuses beautés ont été saluées par la salle entière avec un enthousiasme indescriptible. Sa majesté a presque constamment donné le signal des applaudissements. Et après la dernière scène, quand les spectateurs ont en masse rappelé les artistes, elle s'est placée debout sur le devant de sa loge pour donner les manifestations visibles de sa haute satisfaction. Napoléon III, applaudissant, sous couvert d'Hernani, il proscripto, autrement dit en français le proscrit, n'était-ce pas le signe que l'opéra se substituait au drame, au point de faire négliger qu'il fût de Hugo. Un jugement rendu contre Hugo le 16 mars 1855 permet de reconstituer une affaire peu connue qu'il opposa au colonel César Ragani, directeur du théâtre italien depuis octobre 1853. Il refuse d'abord, en septembre 1854, Victor Hugo, une somme que Ragani proposait de lui allouer pour chaque représentation d'Hernani, inférieure à la rétribution proportionnelle qu'il réclamait pour donner son autorisation. En novembre, il cesse de recevoir le droit de 10% payé jusque-là, payé sans difficulté par les directeurs qui se sont succédés au théâtre impérial italien et par M. Ragani lui-même, précisera son avocat pendant l'année théâtrale 1853-1854. Au moment où la revue et gazette musicale écrit « Consolation pour Hugo » ou « Surcroît d'amertume » que la musique est le véritable conservateur de la comédie et du drame et que Verdi nous a conservé cet Hernani qui, après avoir fait tant de bruit au théâtre français, s'est abîmé profondément dans le silence et l'ombre. Eh bien, pour cause de prescription, Hugo est jugé purement et simplement non recevable en sa demande et condamné aux dépens. Ainsi résume son avocat, la publication d'un livret, si elle n'est pas poursuivie dans les 3 ans, entraîne le droit de représentation au mépris du droit de l'auteur. Une ébauche de poème, restée à ma connaissance inédite, reflète bien la colère du dramaturge interdit et pillé sans le moindre dédommagement. Je suis volé chez moi par la douce Italie. Ragani, colonel des bouffes, me spolie. Oui, ce guerrier, tirant sa batte d'arlequin, aidé du président de l'angle, sous coquin, sort, je vous le redis, tout exprès de la pouille, s'embusque dans la cour d'appel et me dépouille, et comme s'il voulait, hideux, musique au poing, étouffer les clameurs que je ne pousse point, son long avocat maigre et sa chanteuse rousse braillent à qui mieux pendant qu'on me détrousse. Un nouveau directeur, Calzado, succède à Ragani. Les journaux annoncent que Rigoletto, créé à Venise en 1851, va être représenté à Paris. Est-ce que j'ai le temps de traiter de Rigoletto? Non. Alors, rapidement, je vais peut-être causer des soucis aux charmantes traductrices, mais on va essayer d'aller lentement pour résumer. Donc, Hugo se trouve très heureux de cette perspective de représentation de Rigoletto, à condition qu'on lui reconnaisse de nouveau son droit. Son droit sur Lucrezia Borgia, sur Hernani et sur le nouveau Rigoletto qui s'annonce. Les escudiers, que j'ai cités déjà plusieurs fois, qui sont les représentants de Verdi en France, conseille à Hugo de s'opposer aux représentations de Rigoletto. Parce que dans le même moment, Verdi est lui-même en conflit avec la direction du théâtre italien qui utilise une partition piratée et refuse de donner aucun droit à Verdi. Donc il y a solidarité totale entre les avocats et les mandataires de Verdi et ceux de Hugo, contrairement à ce qu'on a souvent écrit. Et donc, il s'ensuit un procès, et comme dans le procès précédent, Hugo va perdre, et va perdre en raison de cette fameuse prescription qui oblige à intenter une action dans les 3 ans qui suivent la publication du livret. Or, le Rigoletto de Verdi est de 1851, le livret a été publié en 53, et Rigoletto est joué à Paris en 57. On se demande d'ailleurs si on n'a pas attendu exprès, un peu au-delà des 3 ans, pour faire que la direction échappe à toute obligation de payer quoi que ce soit à Victor Hugo. Et Calzado, alors, bon, soit dit pour l'anecdote, est un personnage extraordinaire dont Annick De Vries a récemment reconstitué un peu la carrière et qui a fini vraiment comme escroc. Il a été arrêté dans une affaire de tricherie au jeu et destitué de son poste de directeur du théâtre italien. C'était vraiment un filou considérable qui était même d'ailleurs mêlé à des affaires de mœurs tout à fait étonnantes. Voilà, donc cette affaire, si vous voulez, a accrédité, c'est celle concernant Rigoletto, qui a accrédité le plus l'idée d'une opposition systématique de Hugo aux adaptations à l'opéra, mais vous voyez que l'affaire est beaucoup plus complexe et qu'elle intervient à l'issue de toute une série d'autres conflits qui opposaient Hugo à la direction du théâtre italien. Je voudrais tout de même, pour terminer, avec l'autorisation de Nicole, citer un critique lors de la reprise d'Hernani en 1878 et qui pointait un autre grief que pouvait nourrir Hugo contre les livrets. Il faut convenir, écrivait-il, que la haine du poète pour ses fâcheuses métamorphoses s'explique lorsque l'on jette les yeux sur la traduction en français de la traduction de ses drames en italien lyrique. Ainsi, en ce qui concerne Hernani, je recueille dans la brochure de M. Piavé les perles suivantes. Que reste-t-il au bandit que tout le monde abandonne si le vin lui fait défaut? À travers les forêts et les ravins, nous n'avons que le mousquet et le poignard, et la nuit venue, ils sont, dans des grottes horribles, notre unique oreiller. On dirait du Lautréamont presque, tellement c'est extravagant. Quant au cri final de Silva, il devient tout simplement épique. Le vieil Espagnol, au lieu de se poignarder, se contente d'examiner les cadavres de ses victimes en chantant d'une voix caverneuse et d'un air convaincu « Le démon de la vengeance peut maintenant se réjouir. » Le livret de Hugo pour la Esmeralda ne comporte rien d'aussi ridicule et mérite bien d'être réévalué. On a pu se faire une idée de la qualité de l'œuvre à l'occasion de la reprise en 2002 dans la réduction pour chant et piano de Liszt. Et on aimerait entendre l'opéra avec son accompagnement original. On aimerait aussi ne plus lire, que le roi s'amuse n'a trouvé son accomplissement que transposé à l'opéra. Verdi aurait sans doute été le premier à protester contre une telle ingratitude, lui qui voyait en Triboulet un personnage digne de Shakespeare, une des plus belles et des plus fières créations du théâtre mondial. Le jour où cette opinion sera largement partagée, où les spectateurs de Rigoletto seront conscients de ce que leur émotion doit à Hugo, et où l'on cessera de valoriser Lucrezia Borgia, Hernani ou Rigoletto aux dépens des drames qui les ont inspirés, leur transposition en opéra pourra indéniablement être tenue pour une des grandes fortunes de l'œuvre de Hugo. Merci.
Bien, merci Arnaud de nous avoir fait mesurer toutes les difficultés finalement que Hugo a pu rencontrer autour de cette question de l'opéra. Alors, peut-être très rapidement, est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention?
Alors, moi,
moi-même, je crois qu'il y a un demi-siècle. Il m'est arrivé.
Je crois
que c'était Les Misérables. J'ai assisté à la représentation des Misérables il y a un demi-siècle. Et cette représentation m'a donné des principes de la vie que j'essaie de suivre même maintenant. Et dans la littérature française, ou bien dans le théâtre français, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pièces qui se centrent sur les problèmes assez étroits. Les Misérables, par contre, est une pièce à la recherche de l'universalité. Et ça fait une exception. Et je crois qu'il y a une universalité chez Victor Hugo et Les Misérables. Et quel est le rapport entre cette universalité de Victor Hugo et la tradition française en général? Est-ce qu'il y a une théorie que la littérature ou le théâtre doit être universel dans la tradition française, ou bien c'est propre uniquement à Victor Hugo?
Monsieur, pour ceux qui n'auraient pas tous suivi sa question, a assisté il y a 50 ans à une représentation, une adaptation des Misérables, et dit que ça l'a marqué, qu'il a même, été toute sa vie influencé par l'effet de cette représentation, et il estime qu'il y a une universalité des Misérables en tant que roman, mais aussi à travers ses adaptations, et il demande si le théâtre de Victor Hugo visait à cette universalité et si ça relevait d'une conception plus étendue dans la tradition française. Ça n'a pas un rapport peut-être immédiat avec la question de l'opéra, mais tout de même, l'universalité, en effet, je crois, est une visée de Hugo, une visée très importante. Il l'a dit explicitement à propos des Misérables, en disant que l'œuvre n'était absolument pas réservée aux lecteurs français, qu'elle s'adressait aux lecteurs de tous les pays, que la misère n'était pas une question purement française, et tous les sujets d'ailleurs qui s'agitent dans Les Misérables, que ce, on l'a rappelé Nicole hier, que ce soit l'exploitation des hommes et du prolétariat, que ce soit l'exploitation des femmes par la prostitution ou des enfants, tous ces sujets sont malheureusement très actuels. Les Misérables, curieusement, n'ont pas inspiré un grand nombre d'opéras, parce que l'opéra est relativement peu inspiré par la littérature réaliste. Il a fallu attendre le vérisme, une école italienne, et en France, son équivalent qui est le naturalisme en musique, pour que l'on porte à la scène des sujets contemporains et des sujets à dimension réaliste. Et d'ailleurs Puccini, qui est souvent considéré comme vériste, c'est un bon sujet qu'on pourrait discuter, a eu pour projet de faire un opéra tiré des Misérables. Il y a malheureusement renoncé. En tout cas, les Misérables ont connu un succès absolument incroyable dans un spectacle musical qui continue de se jouer partout dans le monde. Et même si on peut trouver cette adaptation insuffisante par bien des côtés, on a donné, à l'occasion de, je ne sais plus quel anniversaire, de la création de cette adaptation, un concert où des Jean Valjean de tous les pays sont venus chanter un morceau d'un des airs, et on a constitué une sorte de collage des interventions de tous ces Jean Valjean, et c'était extrêmement émouvant d'entendre ce texte qui était tout de même dérivé de Victor Hugo, chanté successivement en anglais, en italien, en hongrois, en japonais, en chinois, en russe, etc., etc. C'était vraiment un spectacle émouvant et qui témoignait à sa façon de l'universalité de Hugo. Alors, si l'opéra permet effectivement de faire passer quelque chose du message de Hugo, bravo. Et c'est vrai que Rigoletto, c'est probablement l'opéra qui est le plus proche de sa source, Le Roi s'amuse. Et donc, lorsque les spectateurs sont émus par Rigoletto, à mon avis, ils sont en grande partie aussi émus par le drame de Hugo. Et ce drame, il a une valeur universelle, hein, il n'y a pas de doute, c'est pas un drame spécifiquement français.
Bien, peut-être encore une seule question, monsieur Michonik.
Merci. Est-ce que c'est pas Hugo qui a dit défense de déposer de la musique sur mes vers? Je me rappelle plus.
Eh ben
Hugo,
non.
C'est Baudelaire.
Non, c'est à ma connaissance ni Hugo ni Baudelaire, mais c'est une des fameuses idées reçues qui pourrait figurer au grand dictionnaire.
Ah bon?
Des idées reçues, c'est une citation absolument introuvable.
Ah bon?
Et qui pourtant est constamment répétée. Et qui ne figure nulle part, ni dans les œuvres publiées par Hugo, ni dans les posthumes. Et j'ai toujours mis au défi ceux qui la citent imprudemment de me dire d'où ils la tirent.
Ah non, mais je suis très heureux d'apprendre ça, parce que personnellement, j'éprouve un écœurement absolument au-delà de toute expression, devant la vulgarité et le drame, alors c'est le cas de le dire, du passage de... Et surtout le terme de message, alors là c'est une horreur, le passage, disons, du poème à la musique,
à la mélodie,
en passant par l'opéra. Alors,
Ah oui, il y a l'opéra, oui. Non, parce qu'il y a aussi tout le registre de la mélodie et de la chanson, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Hein.
Oui, c'est autre chose, hein, c'est autre chose la mise en chanson.
Ah
oui, c'est un autre problème. Alors que là, mais on sombre dans le ridicule et le grotesque. À ne plus pouvoir s'en ressortir.
Aimes-tu l'opéra?
Hugo,
aimes-tu vraiment l'opéra?
Non mais Hugo est complètement...
Non mais indépendamment de Hugo.
Non mais c'est le cocu magnifique dans cette histoire.
c'est ce qu'il s'estimait être. Bon, n'empêche qu'il avait donné le mauvais exemple, hein, puisqu'il avait lui-même fait un livret adapté de Notre-Dame de Paris. Hein. Bon. Non, moi je n'ai pas ton écœurement lorsque c'est une œuvre, disons, réussie, hein, telle que Rigoletto. C'est une œuvre qui conserve encore assez de Hugo pour être proche de son esprit. Et je pense qu'il y aurait à découvrir des œuvres, des opéras tels que le Torquemada de Nino Rota, qui constituerait des témoignages du rayonnement de Hugo. Alors je ne dis pas du tout que ça remplace l'œuvre, en aucun cas, de même qu'au cinéma, ça ne remplace jamais l'œuvre, mais c'est une œuvre dérivée, comme on dit, mais une œuvre dérivée n'est pas forcément vouée aux hégémonies. Hein.
Non, mais elle est nécessairement commerciale.
C'est tout à fait autre chose, ça n'a plus rien à voir.
Si, ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir, mais c'est autre chose. Mais tu sais, il y a une chose, hein, c'est que en France, on n'est pas très mélomane. Hein. Il y a une grande partie de la population qui est indifférente, voire hostile à la musique classique, à la grande musique, à l'opéra. Et chacun projette ses propres indifférences ou allergies sur ce qu'il aime, hein. Et par exemple Henri Guillemin détestait la musique et donc il était ravi d'avancer l'idée que Hugo lui aussi détestait la musique, mais en fait à mon avis Hugo détestait beaucoup moins la musique que Guillemin.
Bien, je vous propose qu'on quitte ce terrain dangereux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de légendes sur Victor Hugo qui ont la vie dure. Il y a celle-ci. Il y en a une autre qui est peut-être beaucoup plus nocive encore, qui est qu'on retrouve par exemple dans le dictionnaire du Second Empire, assez récemment publié, et qui voudrait que Victor Hugo soit devenu un opposant à Louis-Napoléon Bonaparte parce que celui-ci lui aurait refusé un portefeuille ministériel, ce qui est rigoureusement faux. Hein, ça se trouve encore aujourd'hui dans un ouvrage d'historien, scientifique, reconnu. Bon, il faut dire que ce n'est pas vrai. De même qu'on peut inventer des citations. Bien, on va s'arrêter là. Moi, je t'aurais juste posé une question minuscule. C'est quand tu dis à propos de ce directeur de théâtre un filou considérable, c'est de Victor Hugo ou d'Arnaud Laster?
C'est d'Arnaud Laster.
Vous voyez, il parle naturellement. Comme Victor Hugo, c'est très très beau.
Mais c'est extraordinaire, hein. Bon, si on pouvait entrer dans les détails,
magnifique.
Un personnage extraordinaire, Calzado, directeur du théâtre italien, qui a une petite place dans l'œuvre de Hugo, on voit son nom apparaître dans les chansons des Rues et des Bois.
Bien, merci beaucoup.